Bonjour. J'ai du plaisir à vous retrouver, chacun là où vous êtes, et je vais vous partager un message autour d'un texte qui, moi, me parle beaucoup. Et c'est ce qu'on est en train de vivre, en fait, en ce moment. Je ne sais pas si vous avez mangé la couronne des rois, fêté l'épiphanie. Et l'histoire dont on va parler aujourd'hui se situe juste après. Les mages, quand ils ont vu l'étoile et qu'ils l'ont suivie, qu'ils sont arrivés en Israël, dans leur tête, ils étaient sûrs que puisque cette étoile leur disait qu'un roi était né, fallait aller à la capitale, aller dans le palais du roi, et c'est là qu'ils trouveraient le petit enfant qui venait de naître. C'était une très grave erreur, en fait, parce qu'ils sont tombés droit chez Hérode, qui était un homme cruel, ce roi-là, et qui était tellement attaché au pouvoir, à la puissance, qu'il a même réussi à faire tuer sa femme et certains de ses enfants qui lui faisaient de l'ombre. C'est dire combien cet homme était dangereux. Alors les mages, ils sont sortis tout tristes du palais, se demandant mais qu'est-ce qu'ils allaient faire, et ils ont remarqué que l'étoile qu'ils suivaient s'était déplacée, ils l'ont suivie, jusqu'à ce que cette étoile s'arrête devant l'endroit où l'enfant était né, Jésus, et ils sont entrés dans une grotte, et ils voient un petit couple pauvre, un tout petit enfant qui venait de naître, enveloppé dans des langes, posé sur une mangeoire d'animal, il y avait une odeur de fumier, et il s'est passé quelque chose qui fait qu'ils ont été convaincus que ce fameux roi, c'était ce petit enfant qui était né. Ils ont déposé leurs richesses, de l'or, de l'encens, de la myrrhe, et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point cette richesse-là a été hyper important pour Joseph et Marie dans les heures, dans les jours qui allaient suivre. Donc l'histoire d'aujourd'hui se passe au moment où les mages y repartent, et puis Joseph se couche avec Marie, le petit, et il s'endort.
Nous lisons Matthieu 2, 13 à 23. Après que les mages furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode va rechercher le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva donc, prit le petit enfant et sa mère et partit avec eux pendant la nuit pour l'Égypte. Il y resta jusqu'au jour où Hérode mourut. Cela arriva afin que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète. « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode se rendit compte que les mages l'avaient trompé, il entra dans une fureur extrême. Il donna l'ordre de tuer tous les enfants de Bethléem et des environs âgés de 2 ans, ou moins. Il le fit d'après les précisions qu'il avait reçues des mages sur le moment où l'étoile était apparue. Alors se réalisa ce qu'avait déclaré le prophète Jérémie. On a entendu une plainte à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. C'est Rachel qui pleure ses enfants. Elle ne veut pas être consolée car ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph. En Égypte, il lui dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et retourne avec eux dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva donc, prit avec lui le petit enfant et sa mère, et retourna dans le pays d'Israël. Mais il apprit qu'Archélaüs avait succédé à son père Hérode, roi de Judée. Alors il eut peur de s'installer dans cette région. Divinement averti en songe, il se retira dans la province de Galilée et alla s'établir dans une ville appelée Nazareth. Il en fut ainsi pour que se réalise cette parole des prophètes. Il sera appelé Nazaréen.
Merci. Donc on imagine Joseph, il fait un rêve, il entend un ange lui dire « Il faut que tu partes, l'enfant qui est avec toi est en danger de mort, il faut que tu fuis en Égypte. » Moi, ça me touche particulièrement cette histoire, parce que Joseph, il est juste épatant. Moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait à sa place. D'abord, aller en Égypte, dans sa mémoire d'Israélite, dans celle collective de tout son peuple. L'Égypte, c'est le pays de l'oppression, des angoisses, et année après année, depuis des millénaires, ils fêtent leur sortie d'Égypte, leur libération, leur délivrance. C'est le lieu dont on part pour aller dans la terre promise. Joseph et sa famille sont dans la terre promise et ils doivent fuir la terre promise pour retourner dans le pays des angoisses et de l'oppression. Moi, je trouve que comment il a fait ? Parce que vraiment, dans mon cœur, dans ma réaction, je sais que j'aurais réagi différemment de Joseph. Et en cela, pour moi, il a un exemple. On dit de Joseph que c'était un homme juste. Est-ce que ça veut dire qu'il fait toujours juste, qu'il fait que des choses justes, ou bien il est le contraire d'un homme injuste? Moi, je m'en rappelle que la Bible dit, on le trouve dans Galates 3 et dans les chapitres suivants, un texte qu'on trouve déjà dans le psaume 14 et qui dit que sur la terre, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Et l'apôtre Paul va vraiment s'appuyer sur ce texte pour expliquer qu'en fait, par des choses justes, en faisant des choses justes, on ne devient pas juste. Ce qui rend juste un homme, ce qui le justifie, c'est la foi. La foi, c'est-à-dire la confiance en Dieu. Alors moi, il y a un terme que j'aime beaucoup, que Chouraki emploie dans sa traduction de la Bible. Il remplace le mot foi, confiance, par le mot adhérence. Alors on sait tous que c'est quelque chose qui adhère, hein, genre velcro, ou bien du scotch qu'on colle, et qui épouse la forme de l'objet sur lequel le scotch est collé. C'est l'adhérent que je suis qui adhère à Dieu et qui épouse les formes de l'adhéré qui est Dieu. Et cette confiance que Joseph a en Dieu, cette adhérence qu'il a sur la personne de Dieu est telle que Dieu peut bouger, se mouvoir et lui faire une chose juste complètement illogique et qui contredit beaucoup de choses qu'il avait ritualisées à l'intérieur de lui-même, sa conception même de Dieu. Mais lui, comme il adhère à Dieu, Dieu peut bouger, il va bouger avec. Cette adhérence à Dieu implique vraiment qu'il a une grande proximité avec Dieu et grâce à ça, il entend Dieu, il perçoit Dieu très bien. Pour ma part, je suis dans une période de ma vie où j'ai jamais autant désiré entendre Dieu. Et je trouve qu'il y a tellement de bruit, de parasitage. Il y a trop d'informations, trop de lumière, trop d'écrans, trop d'émotions, trop de panique, de stress. Moi, je ne sais pas comment vous vivez ça, cette période perturbée par le coronavirus. Mais ça parasite mon entendement parfois de la voix de Dieu. Et j'ai faim, j'ai soif de l'entendre mieux. Déjà, moi j'ai été très frappée au mois de mars, quand le coronavirus nous a touchés, certains comme moi on a été atteints. Moi j'ai été très surprise. Et j'ai été, j'avoue, consternée de réaliser que nous, les enfants de Dieu, on n'a pas été avertis. En tout cas, Dieu n'a pas réussi à nous dire « Attention, il y a un virus qui circule au milieu de vous, qui peut être porteur de mort, protégez-vous, éloignez-vous les uns les autres. » Il a fallu qu'il y ait des catastrophes, que les scientifiques en tirent des conclusions, que nos politiciens nous disent ce qu'il faut faire Mais j'avoue que moi, j'ai rien entendu avant. J'entends Dieu pour me dire des choses qui vont un peu dans l'habituel, mais le contraire, que Dieu me fasse virer de bord. Voilà, j'ai faim et soif. Et je me suis rendu compte aussi que j'étais malade et que je devais prendre des décisions qui cette fois-ci concernaient ma vie. Est-ce qu'il fallait que je sois hospitalisée ou pas, dans des moments où vraiment c'était, je perdais régulièrement connaissance et tout, puis j'étais seule. Mais dans ces moments-là, je me disais, mais Seigneur, j'ai besoin de t'entendre mieux, conduis-moi. Et c'est là que je me suis rendu compte de mon besoin, mais vital, fondamental, d'entendre beaucoup mieux Dieu. On le voit aussi pour la question du vaccin aujourd'hui. Parce que d'un côté, on entend beaucoup de des frères, des sœurs, parler de complotisme et dire attention, ça c'est un moyen pour le diable ou pour des forces occultes de prendre possession de nous. Au milieu, moi j'entends régulièrement des chrétiens dire « Ah, moi je veux être prudente, je laisse les autres se faire vacciner, puis on verra, j'en tirerai des conclusions. » Et puis j'entends moins, c'est vrai, des personnes qui disent « Mais on a tellement prié pour que Dieu intervienne, on est tellement touché par cette souffrance. Ce vaccin, c'est un cadeau de Dieu, peut-être, pour notre monde, et c'est une bonne nouvelle. » Et je me dis, on a besoin d'entendre Dieu nous parler beaucoup, beaucoup plus précisément qu'on ne l'entend aujourd'hui. La période où Jésus est né, c'était une période de très grande confusion. C'était un des pires moments de l'histoire d'Israël et un des pires endroits. Du reste, les événements qui ont suivi très peu d'années après cette génération-là, ça a été vraiment l'horreur. Ça correspond à la Shoah qu'on a vécue pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais au milieu de tout ce brouhaha, il y a un homme qui entend Dieu et qui fait exactement ce qu'il faut. Il y a comme une danse entre son cavalier. Il est pris par le cavalier danseur qu'est Dieu, qui l'entraîne dans cette proximité, et il entend ce que Dieu lui dit, il se laisse aller dans le mouvement, et Dieu réussit à le mener exactement là où il aimerait. Si on met un casque de ski, de moto sur notre tête, si on met une doudoune sur nous, si on met des grosses chaussures ou des sabots à nos pieds, et qu'on nous invite à danser, cet encombrement-là fait qu'on ne va pas réussir à entrer dans cette danse. Et pour être juste, on est justifié par la foi, on a besoin du sang de Jésus. Et peut-être une des premières choses à faire, c'est de reconnaître qu'on s'est laissé encombrer. Il y a une partie, c'est notre responsabilité, il y a une partie, on n'y peut rien. J'aime beaucoup ce texte de Chronique qui a été rappelé il y a quelques jours par Rolf Schneider dans un message qu'il a donné. Et je vais vous le lire. C'est 2 Corinthiens 7, 14. Si mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie et prie et me cherche, s'il se détourne de sa mauvaise voie, de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés, je guérirai son pays. Désormais, j'écouterai attentivement et je considérerai favorablement la prière faite en ce lieu. Peut-être que pour mieux entendre Dieu, on a besoin de se repentir. Et avant d'aller plus loin, je me suis dit que ce serait chouette, enfin important, peut-être même essentiel, qu'on prie dans ce sens. Alors, je vais le faire là, en direct. Et puis, je vous propose que vous ouvriez vos cœurs dans cette dimension que Dieu aimerait nous parler, qu'on en a besoin, que tout notre être crie après la voix de Dieu qui nous conduit et que peut-être des choses parasites font barrage à cela et que Dieu puisse enlever cela. Notre Dieu, notre Père, c'est un peu humilié qu'on vient devant toi, en reconnaissant que Nous t'entendons souvent nous parler et dire des choses qu'on a l'habitude d'entendre, mais que tu puisses nous faire faire demi-tour et retourner dans des lieux qu'on a quittés, comme Joseph qui a dû retourner en Égypte avec sa famille. C'est vraiment quelqu'un qui s'est laissé surprendre par toi, et ça, on a de la peine à le vivre. Nous voulons te demander pardon et reconnaître qu'il y a des choses qui font qu'on t'entend moins bien et qu'on en meurt de mal t'entendre. Ce monde se meurt du fait que nous, ton Église et tes enfants, on a de la peine à percevoir ta voix. Nous te demandons pardon pour tout ce qui nous distrait, pour tout ce qui parasite ta voix, pour tout ce qui nous encombre et qui ne nous permet pas de danser à ton rythme et d'aller à ton mouvement, de ne pas réussir à adhérer à toi. C'est ce que tu nous demandes, c'est de nous repentir. Eh bien, nous le faisons, je le fais. Et je te fais confiance que le sang de Jésus qui coule de ses blessures est tout suffisant pour me purifier, pour purifier l'Église, pour se répandre dans le monde, pour nous laver, pour nous sauver et pour que tu puisses nous parler, nous conduire dans les lieux où on est en sécurité, où tu peux nous guérir, où ta bénédiction nous parvient. Père, merci de faire cette œuvre dans la vie de chacun de nous. On en a tant besoin. Au nom de Jésus. Amen. Le deuxième point, vous imaginez Joseph. Il a entendu Marie lui expliquer qu'un ange lui avait parlé et cet enfant qu'elle attend, c'est carrément le Fils de Dieu qui va sauver le monde. Donc si c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu, divin. Qui dit divin, ça veut dire immortel, éternel, invulnérable, tout puissant. Et Joseph connaît bien l'Ancien Testament, c'est comme ça qu'il connaît Dieu en grande partie. Bien sûr, il y a quelques textes qui nous parlent de la douceur, de la vulnérabilité de Dieu, comme dans l'histoire de Élie et Dieu qui se révèle dans une douce voix, dans une douce prise. Mais en général, Dieu a un côté fracassant, où c'est l'homme qui plie le genou, qui tremble, qui a peur, et Dieu qui est tellement fort. Et puis, cette réalité de cet enfant Dieu, ça a été confirmé par la famille de Marie, hein, par Élisabeth, par Zacharie, et puis ça a été confirmé par les anges qui l'ont redit au berger. Puis Joseph, déjà avant, il avait aussi entendu un ange le lui dire. Puis après par Anne, la prophétesse, puis Simon qui est dans le temple. Puis de nouveau par les mages à travers l'étoile. Ce petit-là, c'est Dieu qui vient sur la terre. Donc c'est tout bon puisqu'il est là. Et bien là, les prophéties vont s'accomplir. Donc quelque part à ce petit, il peut rien arriver. Les prophéties ne peuvent pas être contredites par Dieu en personne. Il est immortel, éternel, tout-puissant. Moi, si j'étais à la place de Joseph et puis que je fais un rêve pour dire que Jésus, lui, il est en danger et que moi, je dois fuir et en plus aller en Égypte, ma réaction, quand je me réveille, j'imagine, je me dis, oulala, ça c'est une attaque du diable. Dieu, il est tout puissant, c'est quoi cette histoire de danger? Moi, je vais chasser ce mauvais esprit, je vais prendre autorité contre cet esprit méchant qui est dans Hérode. Et sincèrement, j'ai l'impression que je ne bouge pas. Et je vais voir ce qui va se passer, que Dieu va accomplir, parce qu'il l'a promis. Comment est-ce que Joseph fait pour comprendre en si peu de temps que Dieu, ce petit enfant, c'est quelqu'un d'immensément vulnérable et fragile, et que Dieu a besoin de lui, lui un petit être humain perdu dans l'immensité des projets de Dieu, et qu'il est là pour sauver Dieu d'Hérode. Alors, bien sûr, Joseph, ça fait déjà plusieurs jours que Jésus est né. C'est un petit enfant comme les autres, il pleure, il tète, il faut lui changer les langes, il est mignon comme tout bébé de cet âge-là. Et certainement que son cœur d'homme était touché par la réalité de ce tout petit enfant. C'était vraiment un bébé comme les autres. Mais certainement, il y a quelque chose de l'ordre d'un mystère, d'une révélation. Et une révélation qu'il va accepter, c'est une folie. Il renonce à ce qu'il connaît de la toute-puissance de Dieu, qu'il a été enseigné. Il est comme dépossédé de tout ce dont quoi il a cru, de l'image qu'on lui a transmise de Dieu et qu'il connaît de l'ancien du Premier Testament. Et il accepte le fait que Dieu fait en sorte de dépendre du bon vouloir des humains. Même que Dieu, en venant sur la terre, il se met en danger, qu'il prend des risques, comme nous on vit. Est-ce qu'il avait compris que le but de Dieu, c'était justement de nous comprendre, de se mettre à notre place, et que plus jamais on puisse dire « Mais Dieu, tu ne peux pas nous comprendre, tu n'es pas à notre place », parce que là, vraiment, Jésus est passé par plein d'événements dans lesquels des millions d'êtres humains ont passé et passent aujourd'hui encore. Et puis que Dieu puisse vivre dans un ventre humain imparfait, au cœur de l'imperfection humaine qui naît dans un endroit, la paille, hein, le fumier animal, le saint qui côtoie le moins saint et qui n'est pas contaminé. Comment il a fait autrement, Joseph, que d'être adhéré pleinement à Dieu et qui garde cette souplesse qui fait qu'il se déplace avec Dieu et qui découvre toutes sortes de facettes et dont cette facette qui est la vulnérabilité de Dieu. Et c'est ma seconde prière que j'aimerais faire. Seigneur, il y a tant de situations difficiles dans nos vies, de détresse, où on désire que tu sois le Tout-Puissant. Et parfois, tu le manifestes et ça réjouit nos cœurs. Et nous voulons garder cette espérance en un Dieu Tout-Puissant. Et en même temps, nous avons tellement besoin de t'accepter vulnérable, de t'accepter avec ce côté fragile, d'accepter cette souplesse, d'être tellement un avec toi que tu peux te présenter tel que tu es vraiment, dans les grandes surprises que nous pouvons avoir. Et nous acceptons, aide-nous à l'accepter, d'être dépossédés de tout ce qui nous enferme de notre image de toi, pour que tu puisses te révéler, te faire connaître tel que tu es vraiment, et qui nous permet de t'aimer encore plus. Seigneur, que ce que tu as fait dans le cœur de Joseph, tu puisses le faire dans nos cœurs. Amen. Le troisième point qui découle des deux premiers, qui moi m'interpelle beaucoup, Joseph et Marie, la vie de Jésus tout petit, avant sa naissance, à la naissance et ensuite, cette vie leur a été confiée. Ils sont devenus porteurs d'une partie de la vulnérabilité de Dieu sur la terre. C'est un trésor qui leur a été confié. Et ce trésor, nous le vivons également. Et je vais vous lire un petit texte qui est apparu dans Porte Ouverte, et c'est un chrétien iranien qui nous a écrit ça et qui a été transmis à travers le journal de Porte Ouverte. À Noël, je ne célèbre pas seulement la naissance de Jésus il y a 2000 ans. Pour moi, Noël représente la manière dont Jésus est né dans mon cœur et dans ma maison. Il y faisait noir, mais Jésus l'a rempli de joie et de paix. Jésus est né dans mon cœur. C'est mon Noël personnel. Je suis restée en prison 3 ans et j'y ai passé Noël 3 fois. Comme j'avais toujours célébré Noël intérieurement, je pouvais le faire aussi en prison. Cet homme, il a cette révélation-là, et combien nous avons besoin aussi de le découvrir dans nos propres vies. Quand on a accueilli Jésus dans nos vies, on a accepté que naisse en nous Jésus. Alors d'un côté, la présence de Jésus, c'est une présence adulte, puissante, claire, nette, et son esprit souffle en nous. Et c'est un moment juste extraordinaire, cette découverte de la force du Dieu qui vient en nous. Mais d'un autre côté, cette vie que Dieu met en nous, ça passe aussi par les étapes que passe un petit bébé. Au début, cette vie en nous, elle est toute petite, elle est toute fragile, elle nous est confiée et on en devient responsable. Responsable de préserver la vie de Jésus en nous, qu'il a mise dans nos cœurs, entre nos mains. On a une responsabilité face à cette vie qui est en nous. Et c'est pas gagné d'avance. Car des Hérode, on en a autour de nous. Parce que derrière Hérode, il y a une force sombre qui a sa volonté propre, que la Bible appelle Satan, le diable. Et cette force voue une haine totale à Jésus. En accueillant cette petite vie en nous, cette vie-là, elle est en danger de mort. Parce que l'esprit d'Hérode, le diable, va tout faire pour tuer cette vie en nous. D'une façon implacable, il aimerait tant qu'à la racine déjà, cette potentielle histoire d'amour qui se joue dans nos cœurs, entre cette vie de Jésus et son Père qui grandit en nous, eh bien, devient une cible. Et c'est pour cela qu'il ne faudrait pas faire l'erreur que, par exemple, moi, je vous ai décrite tout à l'heure, c'est de dire, c'est tout puissant, cette vie-là. De toute façon, elle va se développer, elle va devenir grande et belle et toute puissante. J'ai une responsabilité dans le fait de préserver cette vie. C'est un trésor qu'on porte et en plus on est des vases d'argile. La confiance que Dieu essaye de gagner dans nos vies, c'est aussi quelque chose de tout fragile et qui va être mis à l'épreuve et qui a besoin d'être protégé. C'est pour ça que comme Joseph, on a besoin d'entendre Dieu, on a besoin de lui obéir, on a besoin de danser au rythme de Dieu. Quand on n'entend pas Dieu, moi je me rappelle, on nous disait, mais peut-être que Dieu a déjà parlé, puis qu'il a parlé à nouveau, puis qu'il a parlé encore à nouveau, et puis on n'a peut-être pas obéi, puis à force, Dieu se dit, mais ça ne sert à rien que je parle. Il faut déjà qu'elle revienne au carrefour où je lui ai parlé, ou bien à ce que dit la parole, et après elle me montre que ce que je lui dis, c'est important. Et c'est exactement ce que Dieu aimerait qu'on fasse aussi avec cette petite vie qui est en nous pour que se développe notre capacité à l'entendre, à le suivre et avoir ce discernement pour savoir comment préserver cette vie qui est en nous. Pour que cette vie puisse vraiment grandir. Alors, je vais prier maintenant pour ce point suivant. Seigneur, c'est un très grand cadeau que tu nous fais d'être ce Dieu puissant dans nos vies qui fait qu'on espère en toi et dans tes interventions. Et tu n'as pas dit ton dernier mot du tout. Et tu tiens le monde dans tes mains. Et tu sais exactement où tu vas. Tu vois déjà l'après. Tu sais, tu connais toutes choses. Et pour nous, c'est important de placer notre confiance dans ce Dieu-là, le Dieu de la Bible, le Dieu des promesses. Et en même temps, à travers Noël, nous apprenons que cette petite vie qu'on a accueillie en nous, qui est née comme un petit enfant, nous en sommes responsables. Tu nous as confié quelque chose d'extraordinaire, qui dépend de toi, mais qui dépend aussi de nous et de notre collaboration avec toi. Alors souffle sur nous ton Saint-Esprit. Ouvre nos oreilles, qu'on adhère à toi, qu'on t'obéisse très rapidement, parce qu'on te connaît, parce qu'on te suit, et qu'on entende, qu'on discerne comment protéger cette vie que tu as mis en nous, pour déparasiter, pour pas laisser l'ennemi détruire cette vie en nous, ou la neutraliser, l'anesthésier, l'enfermer. Seigneur, que de l'intérieur, tu nous rendes libres pour que tu puisses grandir, croître et prendre toute la place qui te revient. Merci Seigneur de nous conduire dans cette dimension. Amen. Quand on lit cette histoire, on voit, et ça c'est mon quatrième point, le dernier, pour que Jésus, il ait pu grandir sur cette terre et devenir l'adulte accompli qu'il est devenu et faire tout ce pourquoi il venait sur la terre, eh bien, comme on l'a lu, il a fallu un homme et une femme et qu'ils s'entendent pour la même chose. Alors là, je vais parler d'un sujet qui, moi, me tient très à cœur. C'est un peu délicat. C'est un sujet dont on parle peu à notre époque. J'en entends peu parler aussi dans l'Église. Je vais prendre mon courage à deux mains pour parler de la réalité du genre. Alors déjà, on a parlé de Joseph, l'homme, quel a été son rôle, comment il l'a vécu. Et puis, toute l'histoire de Noël nous parle de Marie, hein, qui entend l'ange lui parler, qui accueille ce que Dieu lui dit, mais qui accueille cette vie, qui va comme l'envelopper et qui va nourrir cette vie en elle jusqu'au moment où elle va donner naissance à cette vie. Et puis, comme elle n'est pas une mère porteuse, elle va être la maman de son petit garçon. Elle va faire le mieux qu'elle peut à chaque étape. Elle va l'accompagner et l'accompagner même jusqu'à à la mort de son fils. Ce couple, pour moi, il est juste génial. Je me dis, franchement, Dieu, il a bien choisi. Que je pense à Adam et Ève, je ne sais pas, franchement. Mais ces deux, Joseph et Marie, moi, ils m'émerveillent et ils sont quelque part un exemple pour moi. Alors, en tant que femme, qu'épouse, moi, je rêve que mon mari soit comme Joseph, qu'il entende Dieu, qu'immédiatement il lui obéisse et qu'il me protège, moi, et tout ce qui fait partie de ma vie, de mon appel, de ce qui est fragile, que je transporte, qui me mène dans un lieu de sécurité, et puis que moi, je puisse épanouir toute cette vie qui est en moi et qui se tienne déterminée à me protéger à l'écoute de Dieu. Alors, c'est quelque chose, parfois, que je lui réclame. Et pour dire vrai, je peux même lui mettre la pression. Et je peux avoir cette même tendance face, par exemple, à des responsables spirituels. J'attends qu'ils soient nos Joseph. Voilà. Et puis, que ça va pas dans mon sens, et puis que j'ai fini de rouspéter, je vais vers Dieu. Voilà. Je lui demande pardon pour mon attitude comme ça, un peu rebelle et énervée. Et puis, tout d'un coup, c'est comme si Jésus se dressait de toute sa stature masculine et il me dit, mais je suis ton Joseph. Et je me dresse, moi, entre toi et tous tes ennemis et je te protège et je te veux à l'abri pour développer cette histoire d'amour avec moi. Et c'est comme si il m'aide à me soustraire à beaucoup de choses pour que je puisse développer dans un lieu de retrait, de silence, voilà, à son écoute, cette vie, cette histoire d'amour que j'ai avec Dieu. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que Jésus souvent me dit autre chose aussi, à moi en tout cas. C'est une voix très douce, mais très ferme, qui me rappelle une réalité. Et c'est une réalité qui remonte à la nuit des temps. C'est lorsque Dieu crée l'humain à son image, à sa réplique, à sa ressemblance. Dès le début de ces textes tellement anciens qui sont écrits dans la Bible, il est écrit que quand Dieu a créé, il l'a fait mâle et femelle. Créé à son image, ça veut dire masculin et féminin. Et quand Dieu, il a vu ça, il s'en est réjoui. C'est marqué dans les textes que pour Dieu, c'était un bien immense. Il est comme attaché à cette réalité-là. Et Dieu qui ne change pas, on peut être sûr qu'il est toujours attaché à cette réalité, quoi qu'on en dise. Il y a une beauté extraordinaire dans la réalité du genre. Dans nos réalités biologiques et de tout ce qui va en découler. Et c'est dommage que dans l'histoire chrétienne, on n'a pas su transmettre cela, bien au contraire, et que beaucoup de choses sont remises en question parce qu'on n'a pas transporté la beauté du genre et de tout ce qui en découle. C'est comme si c'était une réalité, une évidence, et on n'a pas fait attention, et c'est quelque chose qui a été bien abîmé. Moi, je suis très sensible à des êtres humains qui sont mal dans leur genre et qui sont tellement mal dans leur réalité du genre qu'ils sont sûrs qu'ils sont l'autre genre et ils sont prêts à investir. Mais on peut pas imaginer tous les traitements et tout ce qu'ils vont être prêts à donner pour être de l'autre genre où ils vont se sentir bien. Et moi, ça me touche. Parce qu'ils parlent de la réalité du genre. Ils disent « ça existe ». Et pour moi, c'est hyper important. Je porte pas un jugement de valeur sur ce qu'ils font de leur dysphorie de genre. Je dis « qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ?» Et c'est reconnu par notre monde, cette réalité du genre-là. Alors moi, je trouve que c'est important de prier pour cette dimension-là. D'être des hommes, des femmes et que Dieu bénisse nos réalités. Et qui bénissent aussi ceux qui souffrent de cette réalité-là. Maintenant, il y a une autre tendance qui est en train de se dessiner, où il y a des êtres humains, et moi ça me touche aussi énormément, qui disent « mais non, moi je ne veux pas être enfermée dans le fait d'être un homme ou une femme, je veux être les deux, je choisis le matin ce que je veux être. » Mais eux aussi, ils me disent quelque chose. C'est que, ayant été créé à l'image de Dieu, il y a du masculin et du féminin en moi. Et c'est là ce qui est important, parce que cette vie qui nous est offerte à l'intérieur de nous, on ne devient pas seulement un Joseph ou une Marie, on est Joseph et Marie pour cette vie qui est en nous. D'un côté, on l'accueille comme Marie, on la nourrit, on la protège, on lui donne vie et on l'accompagne. Et d'un autre côté, à l'intérieur de nous-mêmes, Dieu veut fortifier cette partie Joseph qui se bat pour le bien, qui veut protéger ce bien-là, qui est prêt à entendre Dieu, qui se tient debout, qui définit les choses. Et ça, c'est quelque chose que Dieu me rappelle très souvent, que j'ai ces deux parties en moi et que c'est quelque chose qu'il veut bénir en moi. Et j'ai pas toujours à attendre de l'extérieur pour cela. Donc, je vais aussi prier pour cette double dimension. Seigneur, j'ai pris mon courage à deux mains pour parler de cela, parce que moi, ça me touche beaucoup. Merci de bénir toutes les femmes qui ont entendu ce message et que tu puisses les faire grandir dans la joie d'être qui elles sont et d'être guéries là où elles ont été blessées. Je te prie pour tous les hommes, Seigneur, qui de même n'ont peut-être pas encore découvert toute la richesse qui est liée à leur genre, qui ont besoin d'être encouragés et renouvelés et se sentir bien et guéris. Merci de les visiter là où ils sont aujourd'hui. Et puis j'aimerais te prier pour tous ceux qui souffrent tellement dans leur histoire du genre, qui peuvent aller dans des prises de position extrêmes, qui ont tellement besoin que tu les rencontres dans leur réalité. Et puis pour tous ceux qui sont en train de parler de cette réalité qu'on a du masculin, du féminin en nous, que tu leur révèles ce que tu veux pour eux. Et Seigneur, merci de bénir le masculin, le féminin dans chacun d'entre nous. Qu'au pied de ta croix, il y ait une réconciliation dans cette double réalité qui est dans chacun d'entre nous et qui collabore avec toi pour la vie de Jésus en nous, pour qu'elle puisse grandir, se développer et porter beaucoup de fruits. Dans nos vies, dans la vie de nos bien-aimés, dans la vie de ce monde, pour toi Seigneur. Amen. J'aimerais terminer par quelques paroles d'espérance. Parce qu'au milieu de tout ça, quand Joseph a été appelé à retourner en Égypte, Dieu lui dit à travers l'ange, « Jusqu'à ce que je te dise de revenir. » Il y a une fin à nos détresses, à ce qui est difficile, à ce qu'on vit dans notre monde. Il y a un « jusqu'à ce que ». Et ce jour-là, j'aime tellement terminer comme ça, en disant une parole de C.S. Lewis, « La porte à laquelle on aura frappé toute notre vie va s'ouvrir enfin, et on entrera droit chez notre Père Céleste.